Vous écoutez Bouchard en parle avec Sylvain, Karen et Jean-Simon.
Au cas où vous le saviez pas, peut-être que les gens à Québec regardent moins le conseil municipal à Montréal, la mairesse Valérie Plante a pris pour habitude de commencer ses séances en disant ceci, j'y vais de mémoire, là, c'est peut-être pas exact, mais je reconnais qu'on est à Montréal dans un territoire non cédé Mohawk, ou un territoire Mohawk non cédé. Bon, ça avait fait jaser déjà un peu à l'époque, puis il y avait une petite controverse avec des historiens, tout ça. Mais là, ça devient un peu plus gros comme histoire. Parce que là, c'est pas le conseil municipal de Montréal, j'enlève rien à ça, là, c'est quand même important. Mais là, ça se passe au Centre Bell. Pas mal plus important que le conseil à Montréal. Non, mais dans la... Disons que ça a plus de rayonnement.
Dans la population, absolument.
La portée. Je sais bien que ça change pas notre vie, contrairement à ce qui se passe avec nos élus. Mais là... Je vois ça aller, ça fait jaser bien plus, parce que le Canadien embarque là-dedans, pour ainsi dire, c'est-à-dire qu'on devrait entendre, très bientôt, ils l'ont annoncé, Michel Lacroix, dire « Bienvenue au Centre Bell, territoire Mohawk non cédé ». Ça fait énormément réagir. Beaucoup de gens disent « Voilà un beau geste d'ouverture, on parle beaucoup de réconciliation avec les Autochtones, mais il y a le mot « réconciliation » et il y a le mot « vérité » dans tout ça. Ouais, là, vous allez dire, bon, mais tout le monde sait que les Amérindiens étaient ici avant nous. Ça, c'est un fait incontestable. Mais sur la question de l'île de Montréal, ils s'entendent pas trop. Plusieurs prétendent que quand les Français sont arrivés, l'île de Montréal était inhabitée. Et que les Mohawks ou Iroquois sont arrivés par après. Alors, si c'est ça, l'histoire du Canadien ou de la mairesse, est-ce que c'est un mensonge? Est-ce que c'est une demi-vérité? On va jaser de tout ça avec le professeur d'histoire Éric Bédard. Il enseigne à TELUC et il est également auteur. Il y a un livre qui sort d'ailleurs prochainement, Le Québec tournant d'une histoire nationale. Éric Bédard, bonjour.
Oui, bonjour.
Alors, ça fait réagir énormément. Tout ce qui touche le Canadien de Montréal, évidemment, ça a beaucoup de portée. Oui. Est-ce que c'est exact que Montréal est un territoire Mohawk non cédé?
Vous l'avez dit dans votre introduction, c'est les spécialistes là qui ont passé leur carrière à étudier ces questions-là, là, je pense à Denis Delage, Alain Beaulieu, quelqu'un comme Serge Bouchard, hein, vous vous souvenez de lui, oui. Parti trop tôt, de l'anthropologue, tous disent pas vraiment. En effet, les Mohawks d'aujourd'hui, les deux villages Mohawks, qui sont celui d'Oka là, et puis de Châteauguay, donc Kanesatake, Kanawake. Ces deux villages-là ont été créés par des Sulpiciens et des Jésuites, des congrégations religieuses, dans la deuxième moitié du 17e siècle. Et ils étaient formés de qui? Ben, ils étaient formés d'Iroquois, qui étaient historiquement, durant ce siècle, des ennemis des Français, mais surtout de leurs alliés. Des Iroquois qui s'étaient convertis au christianisme. Et clairement, des Iroquois qu'on voulait, en guillemets, franciser. Hein, c'est comme ça dans les textes de l'époque, c'est-à-dire en faire de bons citoyens français qui allaient pratiquer l'agriculture puis qui allaient, évidemment, croire au christianisme. Donc, en gros, les Mohawks, c'est les descendants de ces gens-là. C'est ces gens-là qui se sont établis après la fondation de Montréal en 1642. Alors, eux nous disent, attention, nous, là, au fond, on est des parents, on n'est pas juste les descendants de ces gens-là, on est les descendants, les ancêtres de cette époque-là étaient, eux, les descendants des Iroquois du 16e siècle, c'est-à-dire ceux qui avaient croisé Jacques Cartier en 1535, lors de son deuxième voyage. Cartier découvre un village au pied du Mont-Royal, là où il y a le stade de l'Université McGill, à peu près, okay. Et c'était le village d'Hochelaga. Mais en 1603, quand Champlain revient, ils sont plus là. Alors, on se demande pourquoi. Comment se fait qu'ils sont partis? Puis, il n'y avait pas juste les gens à Hochelaga, il y avait aussi des Iroquois un peu partout. Cartier raconte qu'il voit une présence, il sent une présence quand il remonte le Saint-Laurent. Ben, il y en a qui ont dit que c'est parce qu'il y avait eu des épidémies, mais plusieurs disent aussi, puis ça, je trouve que c'est assez convaincant, qu'il y a eu des guerres entre Autochtones. Donc, d'un côté, les Iroquois du Sud, puis de l'autre, les Amérindiens plus du Nord, les Algonquins, les Inuits, les Etchemins, eux, ils formaient une sorte de coalition, puis ils étaient en guerre contre les Iroquois du Sud. Et puis, on peut penser que ben, c'est eux qui ont gagné la guerre à la fin du 16e siècle. Et donc, quand Champlain arrive, il voit personne, ben, c'est parce que, voilà, ils ont été défaits et soit ils sont tous morts, bon nombre sont décédés, ou soit ils se sont enfuis. Enfuis où? Soit dans l'Outaouais, soit dans le nord des États-Unis, dans la région d'Albany. Alors, les Mohawks d'aujourd'hui nous disent, oui, mais nous, on vous le dit, là, nos ancêtres, c'était ces gens-là d'Hochelaga. Très bien, mais ceux qui ont étudié la question disent, ben, ça tient à quoi? C'est quoi vos preuves? Parce que c'est important, là, parce qu'il peut y avoir une portée juridique, il peut y avoir des portées politiques à tout ça. Ben, les preuves sont très, très faibles. C'est un ou deux témoignages d'un chroniqueur qui s'appelle Nicolas Perrault. C'est la tradition orale, c'est la mémoire orale, c'est ce qui nous a été rapporté par nos ancêtres de génération en génération. Ben, vous comprendrez que c'est un fil ténu, c'est mince. Ouais. Comme démonstration. Ça veut donc, pas dire que c'est totalement faux, mais c'est mince.
Il serait exact. Autrement dit, tout le monde s'entend qu'évidemment, il y a déjà eu des Amérindiens, des Autochtones sur l'île de Montréal, bien avant l'arrivée des Français. Mais lorsque les Français arrivent et fondent Montréal, à ce moment-là, il y a personne. C'est inhabité.
C'est ça. Alors, c'est inhabité, mais en fait, c'est parcouru par des nomades, hein?
Okay.
Notamment des Algonquins. Des Algonquins de l'époque circulent. Mais au moment de la fondation de Montréal, en 1642, c'est une région très convoitée. C'est comme le cœur d'un conflit entre cette coalition d'Autochtones alliés aux Français, comme je vous le disais tout à l'heure, là, les Montagnais, les Innus, les Algonquins, tout ça, et les Iroquois. Et les Iroquois font constamment des incursions sur ces territoires-là. D'ailleurs, quand les gens qui vont fonder Montréal arrivent à Québec en 1641, le gouverneur leur dit, allez pas là, c'est hyper dangereux. Les Autochtones sont ils ont des grosses tensions entre eux, et vous allez être au milieu d'une guerre. Allez pas là, allez plutôt sur l'île d'Orléans. C'est ce qu'on va imaginer, Montréal sur l'île d'Orléans, ça aurait été drôle, hein? Ça aurait été particulier. Mais mais c'est ça que le gouverneur Montmagny dit aux représentants à Maisonneuve, à Jeanne-Mance, et tout ça. Puis finalement, ils disent non, nous, on est des vrais croyants, puis notre mandat, c'est d'aller sur l'île de Montréal. Parfait. Mais donc, il y a du monde qui circule, mais il n'y a pas de village. C'est ça. Quand les Français débarquent en 1642 pour fonder Ville-Marie, ils vont pas tuer tout le monde, puis raser les villages. Il n'y en a pas. Il n'y a pas de village. Il n'y a plus de village. Il y en avait eu 100 ans plus tôt, peut-être, mais il n'y en a pas à ce moment-là. Mais il y a des Algonquins qui circulent. Donc, à la limite, on disait territoire algonquin.
Ouais.
On serait plus proche de la vérité de 1642. En tout cas, ça fait plus consensus chez les historiens que c'était plus des Algonquins qui circulaient à Montréal que des Mohawks.
Algonquins ou autochtones amérindiens. Mais la mairesse Plante, elle, dit toujours territoire Mohawk, et là, le Canadien embarque là-dedans. Pensez de ça? Comment vous réagissez comme historien? Puis vous l'avez dit, vous n'êtes pas seul, Alain Belleau, Serge Bouchard, il y en a d'autres aussi qui disent un peu la même chose.
Alors,
pourquoi?
Je ne veux pas me porter à la défense de la mairesse Plante, mais je suis plus sûr que la mairesse Plante dit Mohawk. Je pense qu'elle fait attention. Elle est un peu plus prudente. Je pense qu'elle parle d'un territoire autochtone, mais je suis pas sûr qu'elle dit Mohawk, justement, parce que c'est pas validé par les spécialistes. Mais donc, que les Canadiens disent Mohawk dans leur présentation, ça me surprend énormément, parce que c'est tellement fragile, tu sais, comme élément, comme démonstration. Bon, ce que je pense de l'événement, là, c'est le citoyen qui vous parle.
Ouais.
Là, je viens de vous parler de l'histoire, du contexte. Le citoyen que je suis, mon opinion, c'est que je pense pas que ça aide à la réconciliation. Je pense pas ça. Je pense que c'est un message... D'ailleurs, je pense que vous êtes un peu inspiré de la bonne chronique d'Isabelle Haché de ce matin dans la presse, parce que au fond, ça dit aux Autochtones, ben on est chez vous, puis on va y rester, puis on se donne bonne conscience, hein? Bon, on est dans le symbolique. Puis ça dit aux descendants d'Européens que nous sommes, ben on n'est peut-être pas chez nous tout à fait. Donc, je trouve que c'est polarisant. J'ai une fille adolescente qui dirait c'est malaisant. Ça nous met pas dans. C'est pas vrai que ça nous unit. Oui, c'est une reconnaissance. Je comprends l'idée. Je comprends la générosité derrière cette idée-là. Mais je suis pas sûr que ça nous amène à une plus grande réconciliation. Moi, je pense que, au contraire, ça peut donner des munitions à des avocats qui pourraient dire, bon, ben, à ce moment-là, si on est sur le territoire de telle ou de telle ou de telle nation, Bon, on va négocier. Bon, très bien, négocier quoi? Une cession, un traité, de l'argent. On va où avec ça? Ouais. Personne ne le sait, puis on dirait que personne ne va en parler.
Ouais.
Hein? On est juste dans la bonne conscience, on est juste dans les bons sentiments, mais on va faire ça quoi? Toute notre existence? On va reconnaître ça toujours, sans qu'il y ait de conséquences? Je trouve pas que c'est sain, puis je trouve pas que ça nous rapproche de la réconciliation, pour reprendre le terme consacré.
Ouais, parce que effectivement, la vérité est importante. On devrait peut-être tasser les politiciens puis écouter un peu plus les historiens. Plus tôt dans le show, je disais que Mme Merkel, la chancelière allemande, est allée en visite en Israël récemment. Elle quitte, puis bon, elle a toujours entretenu des bonnes relations. Puis ça prouve que, et tout le monde sait ce qui s'est passé entre les Allemands et les Juifs, mais qu'il y a des relations cordiales aujourd'hui entre Israël et l'Allemagne. Ça prouve que des réconciliations sont possibles malgré toutes certaines horreurs du passé, mais encore faut-il s'entendre sur ce passé-là? Alors évidemment, la Seconde Guerre mondiale étant plus récent, il reste quelques négationnistes ici et là, mais on s'entend. Mmh. Et avec les Autochtones, c'est ça qui est difficile, parce que on veut bien se réconcilier, mais il faut toujours bien qu'on s'entende sur ce qui s'est passé. Même les autres, avec ce que vous venez de dire, même les autres communautés autochtones, dont les Algonquins, qui étaient peut-être même plus présents à Montréal, ben ça doit être difficile, là. Et je sais pas comment ils réagissent face à ça, mais
c'est ça. Puis à Québec, vous avez des Wendat, des Hurons qui disent, bon, qui ont des prétentions, alors que au moment de la fondation de Québec en 1608, les Inuits considéraient que c'était un peu leur zone à eux. Les montagnais. Donc, exactement, ça peut monter les peuples autochtones les uns contre les autres. Est-ce que c'est ça qu'on veut? Je pense pas. Et ce qui est intéressant aussi, c'est vrai ce que vous dites, ce qui est intéressant, c'est que l'histoire, nos rapports avec les Autochtones, on va parler de nous au Québec, c'est peut-être pas la même chose que ce qui se passe au Canada anglais puis aux États-Unis, mais nous au Québec, on a une histoire longue de relations avec les Autochtones, et d'ailleurs, mon livre, vous avez la générosité de présenter en introduction, s'ouvre par cette grande alliance de 1603. C'est-à-dire que l'histoire du Québec, au fond, de plus en plus, on va faire commencer, je crois, l'histoire du Québec, moins en 1608, la fondation de Québec, qu'en 1603, c'est-à-dire avec l'alliance qu'on va sceller à Tadoussac avec les Autochtones, et on va appeler ça cet événement la tabagie de Tadoussac. La tabagie, c'est le tabac, donc on scelle une alliance puis on fait une fête, et on s'entend sur le fait que les Français pourront aller s'établir dans la vallée du Saint-Laurent, mais à la condition d'aider leurs nouveaux alliés, de la coalition des anciennes, des Algonquins, tout ça, à combattre les Iroquois. C'était ça le deal, si vous me passez l'expression. Ouais. Et ça va entraîner les Français dans une guerre qui va durer presque 100 ans, jusqu'à la grande paix de 1701. Mais ce que je veux vous dire par là, c'est qu'il y a eu des relations quand même assez... Il y a eu de beaux rapports. Hein. C'est sûr qu'au final, les Autochtones ont perdu au compte. Mais pendant longtemps, ça a été des rapports de confiance. Je parle bien des Autochtones de la vallée du Saint-Laurent, ça a été des assez bons rapports. Et je pense que ça aussi, on doit mettre de l'avant. C'est une belle page de l'histoire.
Ouais, mais parce ça aussi, on pourrait extrapoler avec l'ensemble de l'histoire en Amérique du Nord et en Amérique du Sud. Encore là, moi, je fais juste lire. Je suis un lecteur, je suis pas un historien, mais j'entends encore souvent que les Européens ont massacré à coups de machette puis de fusil des millions d'Autochtones en Amérique du Sud et en Amérique du Nord. Mais c'est carrément impossible. En tout cas, j'ai lu Jared Diamond et d'autres experts, j'en cite juste un, qui explique que c'est la maladie. C'est quand même triste, mais la maladie, etc., qui ont décimé en grande partie les communautés autochtones, parce que les gens doivent savoir que Cortés puis sa robe, sa gang, je sais même pas s'il était 5000, il était pas énorme. C'est mathématiquement impossible que ces gens-là, avec des épées, aient tout massacré, les Autochtones. Mais il y a encore plein de gens qui le disent, ça. Je l'entends souvent, on a tout massacré, c'est pas vrai.
C'est drôle que vous dites ça. Je donne un cours à HEC de Montréal. C'est beaucoup des étudiants étrangers, notamment des Français, qui avaient acheté mon Histoire du Québec pour les nuls.
Oui.
Et là, il y a un étudiant qui, vraiment de bonne foi, me dit, écoutez, j'ai commencé votre livre, puis où est-ce que les Français vont massacrer les Autochtones, là? Je suis pas arrivé à la page, là. Je cherche. Mais je dis, ben, monsieur, c'est parce que ça s'est pas passé comme ça. Ah bon? Hein? Et vous avez raison. Il était convaincu. C'était un Français. On dit que les Français connaissent bien leur histoire. Mais voyez, il y avait cette espèce de conviction. Non seulement c'est faux, mais dans le cas des Français, par exemple. Parce que dans le cas des Espagnols, eux autres, ils étaient sur un air d'aller, tu sais, c'était des conquistadors.
Ouais.
C'était
des
gens qui poursuivaient la chasse aux hérétiques, aux païens. Ils étaient dans l'esprit des croisades, comprenez, la fin du Moyen-Âge. Ils étaient un peu dans cet état d'esprit-là quand ils débarquent en Amérique du Sud. Alors que les Français de 1603, les Français de Champlain en 1603, c'est l'héritier d'Henri IV. Henri IV, c'est l'homme qui a voulu réconcilier les Français après les guerres de religion.
Ouais.
Il y a un autre état d'esprit en France à ce moment-là. Je dis pas que les Français sont des meilleurs êtres humains, c'est pas ça qu'on dit, mais au moment où on scelle cette alliance en 1603, les Français sortaient d'une guerre de religion épouvantable. Ils s'étaient arrachés la tête. Il y avait eu des centaines de milliers de morts. Ils avaient été traumatisés par ça. Et le roi Henri IV, lui, disait, si on veut créer quelque chose, il faut se pardonner, il faut la concorde, il faut essayer d'aller... Il faut s'entendre, il faut cohabiter, c'est ça. Lui-même est un ancien protestant qui s'est converti, puis ça. Puis c'est un peu ça le message qu'il envoie à Champlain. Et c'est ça qu'ils essaient de faire. Champlain, c'était l'héritier là-dessus. Donc, vous voyez, c'est un autre contexte. C'est ça qu'il faut expliquer aux gens.
Ouais.
Pour montrer qu'il y a des nuances, puis tout n'est pas noir et blanc.
Il y a peut-être un peu trop de militantisme et de politique là-dedans, pas assez d'histoire. En tout cas, on en a fait un bon petit bout ensemble. Éric Bédard, merci beaucoup de nous avoir parlé aujourd'hui. Merci.
C'est moi qui vous remercie.
Bonne journée. Au revoir. 16h27, Éric Bédard est professeur d'histoire à TELUC et auteur de plusieurs livres, dont L'histoire du Québec pour les nuls.
Oui.
C'est lui qui a fait ça.
Oui.
Et son prochain qui va sortir bientôt, Le Québec tournant d'une histoire nationale. Encore à la télé française, récemment, j'ai entendu ça la semaine dernière. Il y a des présidentielles qui s'en viennent, tout ça, puis je suis ça. C'est très controversé avec Zemmour, avec Le Pen, en tout cas. Puis... tout bonnement, là, dans une entrevue, là. Puis pourtant, c'est une grande intellectuelle française, elle a sorti ça, là. Elle parlait de l'héritage de la France. Puis bon, il y a ça, on a mis des choses positives. Mais il y a aussi qu'on a massacré des millions d'Amérindiens en Europe, en Amérique du Nord. Et il y a personne sur le plateau qui fait comme, non. C'est pas comme ça que ça s'est passé. Il y a eu des massacres. Oh, il n'y a aucun doute, là. Espagnol, aux États-Unis, il y a eu des massacres. Il y en a eu, il y a eu des horreurs.
Ouais.
Mais de penser que quelques centaines d'Espagnols ont tué, je sais pas combien de millions d'Aztèques ou d'Incas, etc. Mais non, c'est pas comme ça que ça s'est passé. Il y en a plusieurs qui sont morts principalement de maladies. Je suis pas en train de vous dire qu'ils étaient gentils, les Espagnols, avec les Autochtones. C'est pas ça que je dis. Puis Éric Bédard apporte des nuances intéressantes, là. Si on veut s'intéresser à l'histoire, elle est pas pareille partout. Ici au Québec, ce que Champlain a fait avec les Amérindiens, c'est pas la même chose. Mais ce que le Canadien va faire en commençant ses matchs en disant que c'est un territoire Mohawk non cédé, c'est que le Canadien cède du territoire aux woke. Ça, parce que ça, c'est, les woke, c'est une de leur patente, là. Ils décrochent pas. Montréal, c'est Mohawk. D'où ce qu'ils ont pris ça?
Ben Edmonton, ils l'ont fait aussi.
Mais là, le Canadien, il va pris ça.
Edmonton aussi, les Oilers, même
Edmonton
chose.
Aussi.
Ça laisse dans une tendance un peu. Moi, ce que je note là-dedans, vraiment, c'est que tu peux pas voir l'histoire de manière monolithique, là, tu sais. Puis le vrai génocide culturel, le vrai génocide, c'est les pensionnats, là. Puis là, le problème, c'est que, en raison de ça, ça, c'est épouvantable ce qu'on a fait, c'est dégueulasse, c'est un génocide culturel, les pensionnats autochtones. Mais à cause de ça, ça éclipse tout ce qui s'est passé avant. Alors, on n'est pas capable, on dirait, socialement, de voir l'histoire comme autre chose qu'un immense bulldozer qui passe. Alors qu'en fait, c'est des multiples camions de différentes cultures qui se sont entrechoqués pendant des
siècles. Il y a des nuances. Oui. Je ne sais pas si vous avez apprécié. Moi, c'est sûr, ça a été long un peu, mais j'aurais parlé pendant une heure de temps.
Moi,
faut que je fasse attention
bon.
Parce que moi... Oui, il s'exprime très bien, tout ça, 25-226. Mais on voit qu'il y a des nuances.
Oui.
On voit qu'il y a des... Mais malheureusement, c'est la politique, les militants, les médias, c'est toutes sortes de monde où qui ont des intérêts, tu sais, que ce soit pour des revendications, que ce soit pour plaire à une certaine clientèle, pour aller sur les médias, puis au travers de tout ça, ben il y a une vérité historique qui est dure à cerner un peu.
Mmh. Exact.
Courte pause, on revient.
10 ans qu'on nous parle du tramway, nous avons tous hâte d'en faire l'essai dès que possible. Tout le monde veut découvrir Charlebourg et ses trésors, Limoilou et ses ruelles pittoresques ou Saint-Augustin. Ces espaces verts. En attendant l'euphorie que procure une balade dans ce train urbain, Option Subaru propose l'Impreza 5 portes 2022 à partir de 23 983 $. Option Subaru, une visite chez nous n'apportera pas le vertige d'une balade en tramway, mais nous autres, on existe pour vrai maintenant sur Jules Verne.
La meilleure option, c'est Option Subaru.
Vos factures s'accumulent? Tannés d'être harcelés par vos créanciers? Pensez à Roy Métivier Roberge. Ils tenteront de vous aider à payer vos dettes en un seul versement mensuel, sans frais, sans intérêt. Régler ses dettes, c'est souvent plus simple que vous pensez. Roy Métivier Roberge, des professionnels humains et compréhensifs. Leur note de 4,9 étoiles sur Google le prouve. Obtenez 2 consultations gratuites et confidentielles sans aucun engagement. Roy Métivier Roberge, syndic autorisé en insolvabilité, rmrsyndic.com.
Des consultations gratuites en ligne avec un pharmacien? Oui, c'est possible. Avec les pharmaciens affiliés à Horizon Santé.
Oui, oui, ce service est gratuit.
Visitez horizonsanté.ca pour trouver la pharmacie la plus proche.
Horizon Santé, plus près de vous.
Beauport Mazda. Beauport Mazda vous invite à venir découvrir le tout premier véhicule 100% électrique de Mazda, le Mazda MX-30. Performance, technologie et plaisir de conduire vous attendent. Venez en faire l'essai. Le nouveau MX-30 est présentement en inventaire chez Beauport Mazda.
Symphonique, ça, c'est le vrai.
Absolument. Oui. Rien de
trop. Barbie's Resto Bar Grill. Quel endroit, quel festin et toute une ambiance. Chez Barbie's Resto Bar Grill.
Je voulais commencer avec ça, mais là, ça fait un petit bout que je ne vous ai pas parlé de Barbie. J'ai dit, on va faire ça en grand. J'ai ma tenue de Tuxedo. Je ne sais pas si vous le voyez actuellement. On est tous, d'ailleurs.
Il y a le maître d'orchestre.
Le nœud papillon et tout. Fait que j'ai sorti corde, l'orchestre symphonique. Ah ouais, go, les 25. Merci d'être là en passant. on l'a donc fait en symphonie. On fait des jokes un peu. Mais, donnez-vous donc rendez-vous chez Barbie's. Et justement, pas besoin de Tuxedo. Vous le savez à quel point c'est un restaurant agréable pour tout le monde. On mange bien. C'est tellement pas cher. Mais tellement, puis c'est bon chez Barbie's. Alors, pas besoin de Tuxedo, de Symphonie. On y va. Comme ça, vous textez vos amis, ceux que vous avez pas vus depuis longtemps, les collègues de travail, les amis de bureau, la famille. On se donne rendez-vous chez Barbie's. Pour les côtes levées, j'ai-tu besoin de le mentionner? Non, hein. Tout le monde le sait. Barbie's, c'est une référence. Mais les burgers également. La brochette de poulet à la grecque. La bavette de bœuf. C'est bon. On se donne rendez-vous. Il y a trois Barbies maintenant. Le Bourgneuf, on est sur Laurier à Sainte-Foy et à Lévis. Barbies!
Walmart est l'endroit numéro un pour économiser sur l'épicerie. Économisez 40 cents sur une boîte de soupe condensée Campbell's, maintenant seulement 57 cents chez Walmart.
Depuis toujours, les infirmières prennent soin des patients avec cœur et dévouement. Aujourd'hui, c'est à notre tour de prendre soin de ces professionnels en valorisant leurs compétences et en assurant rapidement un meilleur équilibre entre travail et vie familiale. C'est également l'occasion pour les personnes qui ont quitté le réseau public de revenir prêter main forte avec de meilleures conditions. Plus que jamais, nous avons besoin d'elles pour améliorer la vie des patients. Pour en connaître davantage sur notre plan d'action, rendez-vous à québec.ca/infirmière. Un message du gouvernement du Québec.
Je vous parle de Volvo de Québec. On a fait des farces en début de show, hein? On se demandait la distance avec Noël, il en reste plus ben. Puis quand est-ce qu'on commence les chansons de Noël puis les décorations, éternel le débat. On va sûrement le refaire d'ici un mois. Mais oui, l'hiver s'en vient. Il y a eu de la neige dans le parc à matin. Bon, moi, en tant que gars originaire d'Alma, ça, c'est comme c'est toujours une date un peu symbolique. La première fois qu'un camionneur, quand j'étais le matin, ça arrivait souvent parce que c'est le matin, il fait plus frais. Il t'appelle, il vient de traverser le parc, il y avait de la neige. Mais bientôt, il va falloir le traverser, le parc. Ou aller n'importe où ailleurs en famille. C'est le fun, là. À Noël, on va voir nos familles. Pourquoi pas le faire dans le véhicule le plus sécuritaire? Vous le savez que c'est Volvo, hein? Vous savez qu'il y a des modèles qu'on fabrique, il y a zéro accident mortel. Ce que vous savez peut-être pas, c'est qu'on a des taux de financement à partir de 1,9%. C'est qu'on a des rabais de 3 000 $ sur certains modèles. Et qui nous reste des 2021, nous autres. Il en reste, l'inventaire diminue, mais il en reste encore. Vous avez des rabais sur les démonstrateurs, notamment. Venez nous voir chez Volvo de Québec.
Chatter, téléphone mobile prépayé, arrive à Québec chez Télution. Pour célébrer ça, le 20 octobre au Capitole, il nous présente un spectacle dans le rire et le rock, Guitar Legends et Mario Tessier. Sur scène, 6 musiciens incroyables et l'humoriste Mario Tessier. Vous aimeriez gagner vos billets? Écoutez Bouchard en parle et au signal, textez votre nom. Si on vous appelle, répondez « Ça sonne rock ». Et vous gagnerez votre paire de billets pour Guitar Legends et Mario Tessier le 20 octobre au Capitole. Une présentation de Chatter, téléphone mobile prépayé, disponible chez Télution et du 93.
93.
La chronique de Pierre-Yves McSween, présentée par Kleenex.
Le temps, c'est de l'argent. Et avec Kleenex, les rendez-vous sont rapides.
Le calcul est simple. Infiltration, mammographie, échographie, radiographie. Vous avez votre prescription. KleenexImagerie.com.
3 Kleenex. Un numéro, 653-9933.
Dans Bouchard en parle, voici Pierre-Yves McSween.
16h35, Pierre-Yves, bonjour.
Chez Barbie's, c'est au bar grill. Quel endroit! C'est une blague.
Bien.
Écoute, tu sais qu'il y a les accords sur Internet.
Ah ouais?
De la chanson, c'est tellement un classique, Sylvain, que tout le monde se garoche pour apprendre la toune. C'est comme le clan Panton des restaurants.
Ouais.
Fait que je suis jamais allé, faudrait.
Clan Panton, c'est fort. Club Piscine, ça a été fort un bout. Là, chez
Capital Vendu.
On joue dans le Capital Vendu, etc., etc.
Mais là, on va parler d'autre chose.
On va parler de marketing, là, t'as peu, là. Tu me fais peur. Tu veux me parler de Jérémy Domé, qui est très, très, très populaire. Marie-Lou. Et le marketing sauvage.
Oui, là, je veux pas faire paniquer personne. Je veux pas blaster Jérémy ou Marie-Lou. Je veux parler d'une situation. C'est que Jérémy Domé a fait une tentative de ce qu'on appelle le marketing sauvage. Est-ce que tu connais le marketing sauvage?
Non, je sais pas c'est quoi.
Le marketing sauvage, c'est comme utiliser l'image de quelque chose pour lequel t'as pas payé pour t'attirer des faveurs marketing. Je te donne un exemple. Un exemple classique que j'adore, c'est aux Jeux Olympiques de Londres. Il y a eu une publicité sur Internet, ou peu importe partout, qui parlait de London 2012. Mais tu sais, des villes London dans le monde, il y en a plein. Donc, la compagnie ou le but marketing était de dire London 2012. Mais là, montrer London au Canada, London aux États-Unis, tu comprends-tu? Partout ailleurs dans le monde, sauf Londres. Ou tu t'en vas aux Jeux Olympiques, puis tu achètes le premier panneau publicitaire à l'extérieur du site, mais qui est assez haut pour que du site, tu le vois. Tu sais, exemple, au Wrigley Field.
Ouais.
À Chicago.
Ouais.
Si t'achètes un panneau publicitaire qui serait, par exemple, sur le toit d'un immeuble qui est l'autre bord.
OK, ça, c'est du marketing sauvage.
Ben oui, parce que tu payes pas pour le droit où est-ce que c'est, mais t'es à côté, tu sais. C'est comme si je faisais une pub au FM 93. Votre ami Sylvain vous recommande HP, je sais pas quoi, vendeur d'assurance. Mais qu'il a pas payé, mais ils ont dit Sylvain. Là, tout le monde pense qu'il parle de toi. Mais c'est pas toi qui parle, c'est Sylvain.
Ah ouais.
Tu comprends?
Ouais, c'est
comme si
tu fais
une pub. Ouais, ouais, ouais. Les assurances, en as-tu vraiment besoin? Tu sais, je peux rien faire. Mais puis prendre quelqu'un qui ressemble à ma voix.
Parce que t'as pas le copyright sur la phrase en as-tu vraiment besoin?
C'est ça. Fait que Jérémy Domé, dans le fond, ce qu'il a fait, c'est qu'il représente une compagnie que je nommerai pas. Parce qu'évidemment, ce serait répondre à son marketing sauvage. Et il a dit, oh mon Dieu, Marie-Lou a de la difficulté à dormir. J'ai vu ça sur Internet. Si vous pouvez m'aider à la rejoindre, je voudrais lui envoyer gratuitement une lampe rouge là qui empêche les gens d'avoir de la misère à dormir. Et dans le fond, il est en train d'utiliser ce qu'on appelle en anglais le reach de Marie-Lou pour faire de la pub. Là, il nomme, tu sais, Marie-Lou de 3 fois par jour, elle a des problèmes de sommeil. Je veux y envoyer la patente pour laquelle je suis payé, tu comprends? Et ça, c'est du marketing sauvage. Et là, évidemment, Marie-Lou, il a répondu, Alexandre Champagne, il a répondu en disant, hey, c'est quand même bas ce que t'es en train de faire. Tu comprends-tu?
Parce qu'il
c'est...
sert de Marie-Lou, de sa mm-hmm. portée, parce que, elle est populaire, il y a plein de monde qui a suivi. Moi, je comprends sans rien y donner, là. Moi,
mais il y a plein. C'est du street marketing, de l'affichage sauvage. C'est le classique de, tu sais, les chantiers de construction avec, tu sais, les fameux posters collés sur du plywood. Excuse-moi, j'ai plein d'anglicismes, là. Mais tu sais, quand les gens, ils vont mettre des posters sur des sites qui sont désaffectés, ça, c'est du marketing sauvage aussi. T'as pas le droit de faire ça. Tu vas un ticket si tu le fais parce que c'est, tu peux t'utiliser des cloisons qui sont pas faites pour ça puis pour étendre la publicité pour laquelle tu ne paies pas.
À Montréal, on voit ça pas mal. Il y en a un petit peu moins ici à Québec, un peu en Basse-Ville, moins un peu. À Montréal, au centre-ville, on voit ça souvent. Puis il n'y en colle pas une, là. Souvent, il y a 100 affiches.
Ouais, ouais,
oui,
oui. Puis l'autre affaire qui est intelligente, c'est, tu sais, sur Internet, l'équivalent, ce serait d'aller mettre des publicités sur des sites d'autres compagnies ou des influenceurs sans leur permission. Exemple, tu prends la page de Bouchard en parle, puis en dessous, tu vas dire, ne manquez pas notre promotion sur le steak chez une autre compagnie. Et tu comprends? Donc, c'est une façon de faire du marketing sauvage.
Est-ce que ça peut cependant, une fois que c'est dévoilé, puis tout comme là, Jérémy Domé, bon, il a une bonne idée,
mais ça vient de Marie-Lou. C'est incroyable.
Oui, mais est-ce que ça peut se retourner contre lui une fois que Marie-Lou s'en va, puis elle dit, hey, cheap un peu, Jérémy, là, franchement, tu te sers de mon nom pour
qu'il l'enlève. C'est que le but du marketing sauvage, d'habitude, c'est de faire parler de toi.
Mais
d'habitude, tu fais un mot d'esprit, tu fais un jeu de mots, t'en profites. Tu sais, j'ai vu une pub récemment d'un courtier hypothécaire. C'était pas du marketing sauvage, mais je trouvais ça bon parce que c'était marqué profitez des. Ne manquez pas le bateau, mais le bateau. Tu sais, le taux qui est bas, le bateau. Le bateau. Okay. C'est un jeu de mots. Mais si tu fais du marketing sauvage puis t'en profites pour faire une pub en même temps qui fait sourire le monde, là, tu gagnes. Le monde trouve ça brillant. Tu sais, c'est. Mais là, le problème, c'est que c'est pas ça du tout. Là. C'est vraiment une utilisation grossière du marketing sauvage.
Alors, je pense que ça va se revirer contre lui. Tu veux nous parler maintenant d'investissement en nous posant la question suivante. Est-ce que quand vous investissez ou dépensez, vous pensez à ceux et celles qui vous suivront?
Oui, survivront. Est-ce que je suis un peu philosophique ou je suis dans la logique que tu as plusieurs types de personnes? Tu as des personnes qui doivent dépenser tout ce qu'ils gagnent parce qu'ils doivent survivre. Puis je comprends que ça, c'est une chose. Mais tous les autres font des choix. Et Et j'ai des gens dans ma famille qui ont... Tu sais, mon père et du genre, ma mère, là, sont du genre à tout donner ce qu'ils gagnent. Ça, c'est eux autres. T'sais, ça, c'est... Tant pis pour moi. Mais j'ai une tante qui, elle, a décidé de bâtir un patrimoine multigénérationnel. Elle veut léguer, par exemple, un immeuble à ses enfants. Et pourquoi je trouve que c'est intéressant, c'est de dire, il y a des inégalités en croissance. Puis sachez que les riches pensent de même. Ils pensent à la deuxième, pas à la troisième, pas à la quatrième génération. T'sais, les Molson ont un devoir de léguer l'argent aux autres générations après. Et donc, ça augmente les écarts de richesse parce que plus les gens sont riches, plus ils en gardent.
Ouais.
Plus les autres économisent pas pour les autres générations, plus ça crée un creux. T'sais. Et là, tu te dis, qu'est-ce qu'on peut faire? Puis là, on va parler à hauteur d'homme. Là. C'est sûr qu'on peut pas bâtir un patrimoine comme les Desmarais. Comme, ouais. Comme les Bronfman, comme, tu sais, je n'ai pas hérité de six générations où les ancêtres faisaient de la prohibition. Je parle pas des Molson, je parle en général, OK? Je n'ai pas hérité de ça, tu sais. Donc, mais moi, comme petit particulier, qu'est-ce qu'on fait? Un, vos enfants, vous pouvez peut-être dire, OK, je fais le choix de, par exemple, les aider à partir dans l'immobilier, s'acheter la première mise de fonds, je vais leur prêter ou leur donner 10 000. Puis les petits-enfants, c'est le RE. Puis là, je dis, ouais, mais c'est gossant, Pierre-Yves. T'es vraiment fatiguant avec ça, de penser à épargner pour les autres. J'ai une vie à vivre, puis je me suis fait tout seul, puis ils se feront tout seul. Ça, je l'entends souvent. Sylvain, ce que je répondrais, c'est, on est plus là, là. Je te dirais, jusqu'à il y a 100 ans, la majorité du monde survivait. Tu sais, au Québec, les Canadiens français, puis il y a 50 ans encore. Mais la génération des boomers, jusqu'à maintenant, il y a comme un premier transfert très important des richesses qui s'opère. Et on a la responsabilité de dire, est-ce que je perpétue l'avantage que mes ancêtres, parents, grands-parents m'ont donné, ou je suis égoïstement en train de le dépenser? Et quel est le pourcentage que je dois léguer à l'autre génération? Puis il y a un investissement qu'on peut faire tous, pas tous, mais certains, qui est bizarre, d'acheter une terre pas chère loin. Hein? D'acheter un bout de terrain pas cher loin. Puis là, tu me dis, Pierre, ce que ça donne.
Ouais.
C'est parce que c'est comme quand les gens, les années 70, achetaient des terres plus proches, pas chères. Mais nous, le plus proche, pas cher, est rendu loin.
Ouais.
Mais dis-toi que si tu payes, mettons, 10 000 pour un terrain plus loin, qui est assez grand, on ne sait pas ce qu'on va avoir là, le Québec, dans 50 ans, c'est vrai. On ne sait pas dans 100 ans si on n'a pas quelqu'un qui ne va pas se dire, crime, une chance que mon grand-père a fait ça. Tu comprends?
Tu penses que ça serait une bonne idée, mettons, parce que tu vises du long terme. Là, tu
mais
l'as
ça, c'est
expliqué,
quand t'es rendu, qu'il a mis du RE, puis que t'as fait la première fois. Mais
oui.
Si tu veux faire quelque chose d'un peu spécial...
terre loin.
Une terre à 2-3 heures de route de la civilisation,
ouais.
Peut-être que dans une couple d'années, ça va valoir quelque chose. Peut-être que la civilisation va s'être rendue là. Je vais donner l'exemple des gars que je connais à Québec, OK? Une moment donné, j'étais dans un cabinet comptable, puis on était bien mal payé pour le travail qu'on faisait, puis j'avais un collègue qui a tout lâché. Puis qu'est-ce qui se passe? Il dit, ma famille a acheté des terres dans le coin de Québec il y a une génération ou deux, tu sais.
Ouais.
Puis là, la civilisation est rendue là.
Oh.
Puis on bâtit des maisons. Fait que lui, il s'en allait gérer ça. Fait que tu comprends que lui, probablement quand son grand-père a acheté ça, c'était dans le fin fond de la banlieue de Québec, mais pas banlieue, même agricole, puis etc. Puis là, il y a 10-15 ans ou même plus, c'était devenu intéressant de développer ce secteur-là pour la banlieue de Québec.
Ben là, on est rendu à Sainte-Brigitte de Laval, à Sainte-Catherine de la Jacques-Cartier. Si
ça,
on
c'est même Sainte-Catherine de la Jacques-Cartier, c'est loin, là.
Ben oui, mais c'est full de monde, ça se développe. Même chose dans le haut de Val-Bélair également, Shannon. À Québec, on est rendu loin, là. Mais tous ceux, mais t'as raison.
Le Val-Jalbert qui est pas cher, il paraît.
Non.
Même sur la rive sud aussi.
C'est au lac Saint-Jean, Val-Jalbert.
Je sais, c'est une blague que je faisais parce que c'est un village désaffecté.
Non, mais je suis convaincu que dans tous ces villages-là, c'est au NAM, je connais du monde qui a, tu sais, ces places-là, il y en a qui avaient des terres, qui ont investi, ils ont peut-être, entre guillemets, dormi là-dessus pendant des années. Puis là, bang, comme tu dis, la civilisation est rendue.
Mais c'est un risque qui n'est pas juste financier, Sylvain. Hein? C'est une planification, je dirais, des risques globaux. C'est-à-dire, si à un moment donné, il faut s'éloigner de la ville, d'avoir une place pour ta famille élargie, tes petits-enfants qui soient sécuritaires parce qu'elle est loin de la civilisation, sans être survivaliste, parce qu'on s'entend. Je suis pas de cette école-là
non.
En disant s'il y a un problème,
ouais.
On va tout crever. Anyway.
Ça peut être une belle occasion. Pierre-Yves, merci. Ouais. Merci.
Salut. Hey, Sylvain,
oui.
Oubliez pas, là, le RE, 30% de subvention gratis.
Oui, 30%. Passez pas à côté de ça.
Au lieu de la bébelle gonflable de Halloween, je l'ai dit sur Twitter, tu sais, un petit 50$ là-dedans. Bye-bye.
Merci. Salut. Imagine-tu, là, 25 ans, quelqu'un regarde la ville de Québec, puis il dit OK,
Moi, je regarde ça, là. D'après moi, là, la ville, ça va être Shannon, Sainte-Brigitte, Stoneham, Sainte-Catherine. C'est là que ça va se développer. J'achète des terres. Bon, mais il y en a qui l'ont fait. Je sais.
Ben oui. Il y en a qui sont visionnaires.
Hein. Il y en a qui sont mis ensemble. Tout ça, ben souvent, là, tu sais, on va se mettre, on va se former une petite compagnie. On va acheter des terres, puis on dort là-dessus. C'est pas du long terme, là. On fera pas d'argent dans 5-10 ans, c'est sûr. Mais ça va être genre une autre génération. Peut-être nos, ça va être nos enfants, là. Ça va. Il y en a dans Le Bourgneuf. Mais là, c'est peut-être, là, 30, 40 ans, là. Tu sais, quand ils ont bâti les galeries de la capitale, il n'y avait rien autour. Il y a des photos aériennes. Quand, à chaque fois, je vois
ça.
Ben,
c'est, fou, hein.
C'est le coin que, où je vis. Je fais comme, hein! Eh! C'était des motocross, puis il y avait des chevaux, puis il y avait toutes sortes d'affaires dans ce coin-là. Exactement là où je vis, là. Il y avait, là, aujourd'hui, vous savez à quel point ça s'est développé. Oui. Imagine
c'est
tous ceux qui ont, ouais, imagine tous ceux qui ont acheté ça.
Puis Val-Bélair, ça va être, je pense, que le Bourgneuf des années 20, honnêtement.
Mais tout ça, pour moi, là, connaissant un peu, c'est tout déjà réservé, c'est tout acheté, c'est tout. Là, ce qu'il faut faire, c'est pas ça. Faut trouver, c'est quoi le nouveau Sainte-Brigitte? C'est quoi le nouveau Sainte-Catherine puis le nouveau Stoneham?
Ouais.
C'est quoi? On monte-tu plus haut? On s'en va-tu à
Lac de l'Ange?
On s'en va-tu plus loin en Pont-Neuf?
Ouais. C'est un bon bet, ça. Saint-Isidore, c'est vrai que ça se développe puis qu'il y a des. Ouais, bon
bet. C'est encore achetable, là,
ouais,
mais.
Au Paris.
Ouais, mais ça commence à vendre. J'ai des amis qui ont acheté dans ce coin-là aussi. Mais c'est ça, là, être visionnaire, c'est d'aller voir plus loin puis de prendre un risque. Je suis pas sûr que je suis fait pour ça, moi. Tu sais, faut que tu aies du pif un peu, faut que tu. Peut-être
ouais,
des connaissances.
Faut conservateur pour ça.
Ouais. Je sais pas. C'est du long terme en maudit.
C'est clair.
Trouver un petit lapin de terre à Saint-Basile, là.
Saint-Basile, tu penses
ben,
que
écoute,
ça s'en
on est
va
rendu
là?
À Pont-Rouge, fait que le prochain c'est Saint-Basile.
Il y a du monde de Pont-Rouge qui travaille à Québec là.
Ben oui, il y en a
plein. Font, là. Mais ouais, Saint-Basile, t'es pas loin de Pont-Rouge.
Non, t'es vraiment pas loin.
Ouais, t'es à côté. Courte pause, on revient.
La chronique de Pierre-Yves McSween, présentée par Kleenex.
Le temps, c'est de l'argent. Et avec Kleenex, les rendez-vous sont rapides.
Le calcul est simple. Infiltration, mammographie, échographie, radiographie. Vous avez votre prescription. KleenexImagerie.com.
Trois Kleenex, un numéro, 653-9933.
Suite au succès monstrueux de notre promotion de septembre, Sainte-Fondé Récidive révolutionne encore le monde automobile. En effet, la location de 4 pneus d'hiver à seulement 50$ par semaine sur 48 mois, Sainte-Fondé vous rajoute une Elantra 2022 flambant neuf gratis. Wow! Mais attendez, non seulement vous pouvez aller parader vos nouveaux pneus d'hiver et votre Elantra 2022, mais si vous venez dans la prochaine heure à notre succursale sur Jules Verne, on rajoute une prise 12 volts gratuite. Wow! Sainte-Foy-Andé, faites pas la gaffe de louer ni autre chose, ni ailleurs.
Je vous parle de SimonLaberge.com. Hey, on a parlé d'investissement tantôt avec Pierre-Yves. Il disait que c'est peut-être une bonne idée de s'acheter une terre à quelque part où la civilisation n'est pas encore rendue, puis de voir pour vos enfants, etc. Investir dans le marché immobilier, c'est toujours intéressant, mais peut-être que c'est pas besoin de voir aussi loin. Tant mieux si ça fait votre affaire, mais peut-être qu'à côté de chez vous, ben non, pas tout à fait à côté de chez vous, chez vous, il y a peut-être des belles occasions là de faire beaucoup d'argent. Comment ça? Ben, en vendant votre maison, le marché est en feu. SimonLaberge.com, on en cherche actuellement des propriétés. Ouais, mais ça a monté de combien? Moi, je veux pas vendre. Ben, à moins que tu me dises que tu me donnes 20% de plus ou je sais pas trop, 25. Ben, en un an, là, le prix médian de l'unifamilial a connu une progression de 19% à Québec. Ça, c'est une moyenne. Il y en a qui sont encore plus. Alors, ça vaut-tu 20 000, 50 000, 100 000 de plus votre maison que ce que vous pensez? Peut-être que ça pourrait vous inciter à vendre. Gratuitement, contactez donc les experts de SimonLaberge.com. On va vous le dire combien on pense qu'on peut vendre votre maison. Ça pourrait peut-être vous inciter à le faire. SimonLaberge.com.
Chez Philosophe, procurez-vous le purificateur d'air sans filtre Vortex 3500 à seulement $197. Achetez-le sur Philosophe. philosop.com.
Au party de bureau, il y a des incontournables auxquels vous ne pouvez pas échapper. La cravate de Noël de Steve, le décolleté un peu trop plongeant de Valérie et cette année encore, la fameuse pompe de gel assainisseur pour les mains. Mais ça tombe bien parce que Doulis vous invite à venir fêter
en grande pompe!
Ben oui, pour du plaisir bien protégé et sans culpabilité, c'est chez Doulis que ça se passe. Doulis, s'amuser, boire, manger en toute sécurité.
Je parle de Jean Lelièvre, syndic. Vous avez des problèmes de finances, vous avez besoin d'un allié, d'un ami. Ben, c'est pas le syndic, ça c'est la faillite. Sylvain, non, honnêtement, il y a beaucoup, beaucoup de mauvaises informations. La grosse majorité des clients chez Jean Lelièvre syndic, ça se termine pas en faillite. Je vous le dis, j'ai les chiffres, là. Proposition de consommateur ou autre, on trouve une autre façon. Alors oui, ça va être votre allié. Vous vous sauvez de vos créanciers, là, le téléphone sonne ou les emails, tout ça, vous êtes tanné, ça cogne à la porte, vous avez peur, le huissier. Tout, on fait le contraire, là.
chez Jean Lelièvre Syndic, on inverse les rôles. C'est nous autres qui va courir après eux. Pour en arriver à un arrangement, il y a des outils dans la loi pour vous protéger. Les gens ne le savent pas des fois. Donc, vous n'êtes pas capable de payer votre dette. On va s'arranger pour un montant que vous êtes capable de payer tant par mois pour être libéré. Vous avez besoin d'un ami, d'un allié. Vous avez besoin de Jean Lelièvre Syndic.
Le Marc Aurel, résidence pour aînés du groupe Patrimoine, allie plaisir, amitié et sécurité. Près du parc de l'Escarpement et des galeries de la capitale, offrez-vous une visite. La résidence Nouveau Genre, le Marc Aurel, un milieu de vie que l'on choisit. Lemarcorel.ca.
Embarquez dans un nouveau Outlander PHEV de Paquette Mitsubishi. Ce n'est pas que s'asseoir dans un VUS neuf, c'est monter dans un VUS d'avenir. Le nouveau PHEV se moque du prix de l'essence avec sa technologie hybride rechargeable plus puissante et plus autonome. Épargnez 2 000 $ au comptant, plus 6 500 $ de rabais gouvernementaux sur le PHEV 2022. Ou financez-le à partir de 0,99%. Que demander de plus? L'ensemble de pneus d'hiver Yokohama, on vous le donne. Détails chez Paquette Mitsubishi à Lévis.
Benjamin Moore affiche ses couleurs. La peinture Ben d'intérieur est à 30% de rabais à 39,99. Une offre unique du 14 au 25 octobre seulement. Contactez votre détaillant Benjamin Moore participant, un entrepreneur local. Détails en magasin.
Shine Down. En concert le 26 février 2022 au Centre Vidéotron. Avec comme invités spéciaux Pop Evo et Aaron Jones. Shine Down. Billets en vente maintenant sur Ticketmaster.ca. Plus de détails sur gestev.com.
Jusqu'à 18h, vous écoutez Bouchard en parle avec Sylvain, Karen et Jean-Simon. 93.
16h52. Il y a un événement de vandalisme à Québec qui pourrait juste passer pour, bon, destruction de matériel, du vandalisme. Il y en a toujours eu, mais il y a toute une histoire là-dedans. Je dirais même qu'il y en a même deux. C'est spectaculaire. D'abord, ça a été fait au vu et au su, filmé, assumé,
ouais,
par un individu que je pense on peut traiter de complotiste.
Oui, je te confirme. Avoir sa page Facebook, là.
Le profil. Et moi, ça commence à m'inquiéter un peu, là. Certaines, il y a des gens qui portent des accusations. Tu sais, si tu dis que quelqu'un est un con, il est mauvais, à la limite, il est menteur, il est je sais pas, lettre. Mais quand tu traites des gens de pédocriminel, pédosataniste, de corrompu, vendu, méchant, là, tu sais, là, du monde de même, s'il y a des gens qui vous croient qu'il y a vraiment ce type de personne-là, méchante à ce point-là, qu'est-ce que vous pensez qu'ils vont faire, là? Puis là, vous allez dire, on n'est pas responsable. Bon, j'ai pas dit à personne d'aller casser la gueule. Je lui ai juste dit que c'était les pires, qu'on a, tu sais, des méchants, pédosataniques. Ben oui, mais qu'est-ce que tu penses qu'ils vont faire? Vous allez voir, là, il y a une histoire, Philippe-Rodrigue Comeau va bien nous l'expliquer, de vandalisme, puis il y a autre chose derrière ça qui m'inquiète. Philippe, bonjour.
Salut.
Ça se passe où?
Ça se passe sur les plaines d'Abraham, jardin Jeanne d'Arc. C'est tout juste derrière l'hôtel du Concorde, dans ce secteur-là.
C'est très beau comme jardin.
C'est ça. Puis c'est un endroit intéressant parce qu'il y a des œuvres qui sont installées là dans le cadre d'une promenade qui est une initiative du Musée national des beaux-arts de la Ville de Québec, des plaines d'Abraham. Toute la gang y participe, là, tous les organismes possibles pour donner la chance à des artistes de se montrer puis de faire entendre leur message aussi. Parce que l'œuvre d'art dont il est question, il y a un message assez fort là-dedans.
Donc, c'est une œuvre d'art qui a été victime de vandalisme. Les gens ont été à la radio, là, on va le décrire. C'est quoi l'œuvre comme telle?
L'œuvre d'art, ce sont deux gros panneaux, un peu comme ceux que vous voyez sur le bord des routes pour les élections, là, les plus gros panneaux. Là. Je sais pas c'est combien de pieds par combien de pieds, mais ils sont assez imposants. Et recto verso, des deux côtés, on a des tableaux, des photographies de jeunes. J'ai essayé de communiquer avec l'artiste, j'ai pas l'âge des jeunes en question, mais il y aurait aux alentours de 16 ans peut-être, qui pose dans un style, je suis très mauvais en termes d'écho, là, mais qui me donne une impression un peu boudoir, avec des poteaux. Et bon, on fait référence peut-être à des poses suggestives, provocantes, selon le point de vue de certains. Assurément ceux qui ont détruit les œuvres en question, qui les ont vandalisées. Mais honnêtement, moi, j'y vois pas grand-chose de très provocant là-dedans.
Si je comprends bien, on veut dénoncer notamment, si j'ai bien compris, là, l'hypersexualisation des jeunes. Vous comprenez que si la presse ou même nous autres. Mettons que moi, je fais un dossier pour dénoncer l'hypersexualisation des jeunes. Ben, ça se peut que sur le podcast ou dans ma nouvelle, il y ait une photo qui illustre ça un peu, sans être indécent,
absolument,
sans aller trop loin.
Tu vas illustrer ton propos.
Dans le Journal de Québec, Radio-Canada ou la presse, ils dénoncent ça souvent. Il va y avoir une féministe ou quelqu'un, un psychologue, je sais pas trop. Ben, tu vas avoir une photo qui, sans aller trop loin, illustre ça un peu. L'artiste, il voulait dénoncer ça, là.
Oui, et l'artiste s'appelle Annie Baillargeon. Si vous tapez son nom, vous allez voir qu'elle a remporté plein de prix. Okay. C'est une artiste de Québec qui est vraiment très impliquée au niveau social. Une féministe, assurément. Donc, qui porte un message. Et je veux vous citer l'explication, parce que à côté de l'œuvre, il y a une explication pour aider les gens à mieux interpréter ce qui pourrait peut-être être choquant. Trouvant écho dans l'actualité, mon projet interroge les normes de beauté véhiculées par la société. Identité, acceptation des corps et hypersexualisation, ils sont autant d'angles explorés pour réfléchir à la question de la diversité corporelle. Ça, c'est le message qu'elle livre. Okay. Et c'est fait en collaboration, on appelle ça une médiation culturelle entre l'artiste et des ados qui sont inscrits à un programme, le programme Passerelle du Centre Solidarité Jeunesse. C'est un programme qui se spécialise dans le décrochage. Donc, les jeunes qu'on peut voir sur les tableaux, c'est des jeunes qu'on va raccrocher avec l'art.
OK. Donc, bon, il y a tout un projet artistique derrière ça. Évidemment, vu qu'on parle d'art, vous trouvez ça beau ou pas beau, là, ça, c'est votre affaire. On voit que le message est très, très clair.
Mais on le comprend, le propos.
On le comprend, il n'y a aucune controverse. Quand à la TV, ils parlent de films porno, là, même s'ils dénoncent ça, ils vont montrer quelques images qui vont être blurry, camouflées un peu, tout ça. Ouais. Mais ils vont... Alors, on traite de l'hypersexualisation, fait que l'image va avec ça. Bon, et là, l'individu en question, lui, il a vraiment pas aimé ça. Et il a envoyé un message sur son Facebook, même il se filme, là, en train de débattre ça à grands coups de quoi? De hache?
C'est une masse. La journaliste du Journal de Québec a dit ça ressemble à une hache. J'étais pas sur place, mais ça ressemble vraiment à une masse. Il est entouré, lui, de d'autres personnes qui le filment aussi, qui semblent y prendre plaisir et qui l'encouragent. Et il fait pas ça, tu vois que c'est prémédité, là, le gars est arrivé avec sa masse, mais aussi des souliers de protection, un casque et une veste.
Ouais, j'ai vu ça.
Et écoute, ça a donné une scène assez incohérent.
On va l'entendre.
Je dois l'avouer. Là. On peut entendre Didi Dan.
Je dénonce ouvertement. Mon nom, c'est Daniel Girard. Mais moi, il m'appelle Didi Dan. Puis, je vais carrément me dénoncer parce que ça n'a pas d'affaire là. Je dénonce un crime. Et non, c'est pas un crime. Qu'est-ce que je vais faire? C'est que je vais aller enlever le crime. Puis ça a été accepté en plus par la ville. C'est vraiment pas normal que ça ait été accepté par la ville. Là, c'est assez. Notre limite, elle est là. On arrête ça, là. C'est fini, là. On va pas plus loin. On va carrément les détruire. Je vais carrément les détruire. Quelque chose avec des adultes, ça passe. Sinon, avec des mineurs, ça passe. T'as aucune place en ville, là. C'est une infraction criminelle d'avoir fait ça. Fait que je vais passer à l'acte. Vous avez juste à reculer. Je vais faire ça sécuritairement. Je vais mettre mon casque avec mon docteur. Sauf qu'on n'accepte pas la pédophilie au Québec. Tu sais, là, qu'est-ce qui se passe, là, quand on provoque les gens? Contre elle, parce que c'est carrément illégal. Et je veux qu'aujourd'hui, je vais donner une journée pour que la ville enlève les pancartes. Je veux qu'elle enlève les pancartes, je donne une journée.
Oh, OK. Donc, c'est une femme.
Non, c'est un gars.
C'est un homme? OK. J'ai juste vu les images de loin, puis à la voix, j'étais pas sûr.
De tout ce qui est plus générique.
Non, parce que Daniel, ça peut être,
un homme.
Puis bon, avec la voix. OK. OK. Anyway. Mais il n'y a rien compris. Mais c'est un message pour dénoncer un peu ça. Puis là, il dit que c'est de la pédophilie.
Ben clairement, quand tu écoutes le monsieur, c'est pas le pogo le plus dégé de la boîte, là.
Mais ça rentre-tu dans la catégorie, là, de ceux qui voient des pédos criminels partout, là?
Oh oui, sur sa page Facebook. Je l'ai épluché en masse. Lui, il pense qu'avec de la vitamine D, tu te protèges, que c'est une fausse pandémie, les pédos satanistes, QAnon,
Il est dans QAnon, puis les pédos satanistes.
Il est far gone, là.
Et là, il y a un artiste qui veut dénoncer ça, puis qui voit son œuvre démolie, débattie.
Et s'il s'était attardé juste un peu à l'œuvre, il aurait vu les explications bas, là, à ses pieds, effectivement.
Puis s'il avait lu le code criminel, c'est bien défini en passant qu'est-ce qui est de la pornographie juvénile.
C'est quoi?
Il l'a lu! Puis dans sa vidéo, il le lit au complet. Non, il comprend pas, mais clairement, il n'y a pas les outils pour comprendre, Sylvain.
C'est parce qu'il faut que ça soit orienté vers les... C'est vraiment de la nudité, puis que ça soit... Il y a des facteurs précis. J'ai pas la loi devant moi. Je veux pas la citer, là, pour pas... Mais il voit bien que cette œuvre d'art-là ne peut pas être de la porno juvénile.
Mais il voit pas ça, lui, dans sa
tête. Non, mais je vais citer Jésus, heureux les pauvres d'esprit dans son cas. Là. Je veux dire, c'est pas un vite-vite, là.
Non, mais il y a du monde autour de lui.
Oui, mais c'est pas des vite-vite non plus quand t'es voix, là.
OK. Et oui...
Tu veux qu'on remonte à l'histoire d'où ça vient,
ouais,
tout ça?
Il y a comme une autre histoire. Comment ça se fait que lui décide d'aller s'en prendre à cette œuvre d'art-là? Parce qu'elle est là depuis un bout, là, en arrière du Concorde à Québec.
Début du mois d'août.
Ça fait un bout que c'est là. Je comprends bien, il y a eu zéro controverse, il y a eu zéro, mais pas pantoute. Et là, soudainement, envoie la hache ou la masse, puis on détruit ça. Il est arrêté en passant.
Oui, pour votre info, pour mes faits, dénonciation citoyenne, les policiers qui l'ont localisé assez facilement, oui.
OK, mais il y a un autre individu qui a pointé du doigt cette œuvre d'art-là, un individu très influent dans le monde complotiste récemment.
Un ancien comptable de Lévis, qui a une fondation qui suscite beaucoup, beaucoup de controverses, tu l'as dit, depuis le début de la pandémie. Et vendredi, il y avait une manifestation. Il y avait la manifestation des éducatrices en CPE à l'Assemblée nationale. Et juste après, il y avait une manifestation silencieuse contre le vaccin, où on est allé faire le piquet devant l'Assemblée nationale sans dire un mot.
Ouais.
Et sur le chemin du retour, c'est ce que je présume, Stéphane Blais, qui fait beaucoup parler pour ses théories complotistes, remarque les panneaux, les tableaux en question, et il est avec quand même plusieurs personnes, et ça l'insulte et ça le scandalise à un tel point qu'il prend la caméra puis qu'il se met à commenter la chose. Et ça, ça se passe vendredi, soit trois jours avant que les tableaux soient détruits par quelqu'un qui partage les vidéos de Stéphane Blais. Je vais entendre un extrait de ce que Stéphane Blais avait à dire quand il a été estomaqué devant ce tableau-là.
Ce sont des enfants sur un poteau de danseuse. C'est des enfants, ça. Des enfants. OK? Alors, voici les tabarnaks de corrompus, OK, qui nous gouvernent, puis qui laissent ça aller, qui trouvent que ça, c'est la culture qu'il faut promouvoir maintenant. On est ici sur les plaines d'Abraham, des enfants qui sont sur un poteau de danseuse. Alors, c'est complètement dégueulasse. Alors, ces gens dégueulasses-là, c'est eux autres qu'on combat. Je vous le dis.
Ça n'a pas de bon sens.
Des enfants.
Ouais.
Et voilà. Voilà.
Les féministes sont où, les féministes?
Stéphane, c'est pour dénoncer ça. Mais juste lire, c'est
Non, mais lui, il comprend.
L'artiste, la femme, elle veut dénoncer l'exploitation sexuelle des enfants, l'hypersexualisation, toutes ces choses-là.
Ouais.
Elle veut dénoncer, comme il y a plein de médias qui dénoncent ça, puis qui, des fois, vont mettre une photo ou quelque chose. Ouais. Elle l'a illustré dans une œuvre d'art pour qu'on le voit. Ça peut peut-être choquer un peu, mais son message, c'est de dénoncer ça, Stéphane. Et là, est-ce que... Évidemment, on ne porte pas d'accusation, là. Mais le type qui démolit, est-ce qu'il a vu ou entendu ou a-t-il pu être influencé par la vidéo de Stéphane?
Il l'a partagé, la vidéo.
Il l'a partagé.
Bon.
Et lui, c'est un ancien étudiant, ancien comptable?
Oui, oui. Ouais.
OK. Mais donc, il a déjà été comptable?
Ah, il est brillant, lui. Là.
Donc, il est brillant, là?
Oui, oui.
Lui, dans cette histoire-là, là, il fait cette vidéo-là. Didi Dan partage et ensuite commet horrible, il est arrêté, on va attendre, mais ensuite
là, il y a une vidéo
là, il commet,
en train de le faire.
Il commet un geste criminel là. Moi la ce serait bon d'y poser la question à lui. Est-ce que à Stéphane Blais, tu penses pas que tu as eu une influence là-dedans? Est-ce que tu te sens responsable? C'est pas moi qui le dis là, je pose.
Oui.
Est-ce que tu te sens une responsabilité dans la destruction de cette œuvre d'art-là? L'avais-tu? Non, mais il répond
mais,
pas souvent. Mais
c'est
ça qui est dangereux. Ouais. Il y a du monde influençable. Tantôt, Jean-Simon les a traités de noms. Ça, c'est ton affaire. Je te laisse aller là-dessus. Ouais. Mais moi, je suis pas trop là-dedans dans les insultes. Je pense qu'il y a des gens qui font un peu pitié et qui sont influençables. Moi, je vire plus mon questionnement vers la gang à du monde comme Stéphane Blais, qui dit à du monde ça... Imagine-toi, là, la personne qui est influençable, qui n'a peut-être pas tous les outils, Blais leur dit, c'est de la pédophilie quasiment, des enfants, c'est un poteau de danseuse, ça n'a pas de bon sens, tabarnak, là, il est crank. Puis là, l'autre, lui, il prend sa masse, puis en way go. Mm-hmm.
Ben, l'histoire est parsemée, Sylvain. Appelons-le influençable, je suis d'accord, OK, ben, prenons ce terme-là. L'histoire est parsemée de gens extrêmement brillants qui ont fait faire la sale job, ou qui ont laissé faire la sale job, ou qui se sont satisfaits de laisser faire la sale job par des gens influençables n'ayant pas tous les outils.
Tu sais, puis je dis pas que Blais, là, il y a rien de criminel là, dans ce qu'il a dit. La police courra pas après. Le geste qui a été fait par Didi Dan. Alors, je ne porte pas d'accusation, mais je sais pas comment il sent. Je sais pas qu'est-ce que vous en pensez. Est-ce qu'en quelque part, est-ce qu'il a pu l'influencer?
Mais quand il y a un influenceur comme ça, quand tu as une crowd comme ça et que tu sais qu'ils sont vraiment derrière toi, qu'ils sont à la limite,
il pourrait se faire tatouer ton nom, là, tellement que, qu'il est vénéré, donc tu as une responsabilité.
Parlons plus de Stéphane Blais là-dedans, mais bon, Philippe nous a bien décrit un peu ce qui s'est passé. Il fait sa marche, la vidéo, il dénonce. Après ça, il y a le geste criminel. Sans parler de lui, là, il y en a d'autres, beaucoup, qui disent qu'à peu près tous les élus, les élites, sont des corrompus pédosatanistes. Quand tu dis ça à quelqu'un là, qui est influençable et qui te croit, « Hey, lui, là, il est, c'est un ci, c'est un ça. » Ben, ça donne ce qui est déjà arrivé à New York. Là. Il peut y avoir quelqu'un qui a une mitraillette qui rentre dans un restaurant pizza puis il cherche les pédos pour les descendre. C'est parce que c'est pas vrai, là. C'est faux. C'est des mensonges. C'est pas la première fois, lui, Blais, là. C'est le même qui avait trouvé de quoi de pédophile, le regard satanique ou pédophile,
oui,
là.
Du docteur Julien.
Là, il s'est excusé, je pense. Par contre, ben, on va le mentionner pareil, là, pour être juste et équitable. Mais il avait quand même découvert de quoi de satanique ou pédophile.
Les enfants, là,
dans les œuvres du docteur Julien, si vous le placez pas, si vous le replacez pas, c'est un médecin qui œuvre pour les enfants.
Il fait des choses incroyables.
Ouais. Puis il est allé. Donc, est-ce qu'il va s'excuser, là, auprès de l'artiste?
Pas eu de réponse.
Est-ce qu'il va, encore une fois, dire, ouais, OK, j'ai mal compris, j'ai mal vu?
Mais voyons, pourquoi ils s'excuseraient?
Les mots ont une portée, là.
C'est payant pour eux autres.
C'est parce qu'on va accuser le gars qui avait la masse. On va accuser celui qui a donné le coup. On va accuser... Tu sais, ils ont accusé le gars qui est rentré avec une mitraillette dans le restaurant à New York où il y avait apparemment plein de pédophiles puis il n'y en avait pas pantoute.
Ah, le Pizzagate de QAnon, oui.
Pizzagate de QAnon. Le gars avec la mitraillette, il a été accusé.
Oui.
Mais ceux qui ont fait à croire qu'il y avait des pédophiles dans cette pizzeria-là, ils n'ont jamais été accusés.
Mais c'est le même principe que le Capitole aussi.
On peut, ouais. Jusqu'où les gens qui tiennent ce discours-là, hey, c'est tous des corrompus, ils nous ont volé l'élection à la Maison-Blanche, puis au Capitole, c'est des voleurs. Après ça, t'as du monde qui croit ça. S'ils croient ça, ils font quoi? Dans leur esprit, là, c'est des patriotes. Le gars, là, Didi Dan, moi, qui venge, lui, il est convaincu dans sa tête.
Il pense qu'il fait du bien.
Pense qu'il fait du bien. S'il a partagé la vidéo de Blais, on peut donc supposer qu'il l'a aussi entendu puis il l'a écouté. Donc lui, dans sa tête, il s'attaque aux pédophiles. C'est un héros.
Dans sa tête, lui.
Il en est tellement fier qu'il se filme.
Oh oui.
Fait qu'au niveau de la responsabilité, je ne parle pas de la responsabilité criminelle. Ça, je laisse ça aux policiers. Moi, j'accuse pas de monde. Mais la responsabilité morale, elle est sur les épaules de qui, vous pensez? Du gars, disons, influençable. OK? Bon. Qui fesse ou l'autre qui a fait à croire, alors que c'est faux, que c'est une œuvre.
L'influenceur
25226. Ouais. L'influenceur ou l'influençable? 25226, merci.
Plaisir.
Philippe, 17h07. Il faut voter sur les sujets de Max, ça s'en vient dans quelques instants, mais avant, il y a eu une folie, honnêtement, au Telluçon, à Vanier, sur la rue Soumarne. On va aller rejoindre François Jacques. Oui, il avait parlé en début de show, mais il me semble qu'il n'est pas revenu. C'est parce qu'il y a, écoute, on a quasiment bouché la rue, là. Il n'y a pas eu de, d'embouteillage, mais Jean-Simon a presque vu ça sur ses écrans. D'après moi, commence à être jaune foncé un peu, là. On va aller le rejoindre pour savoir ce qui s'est passé chez Telluçon. C'est l'arrivée de Chatter. Et demain, c'est notre show au Capitole avec Guitar Legends et Mario Tessier. François, comment ça va?
T'as créé un engouement, Sylvain. T'as créé un monstre. Il y a même des auditeurs qui nous ont laissé des offrandes au Telluçon.
Eh, ils ont voulu vous corrompre, oui. Que c'est ça?
Ben écoute, il y a une auditrice qui nous a donné des pommes, puis un auditeur qui nous a amené du chocolat, parce qu'on lui a donné des billets. Donc, écoute, il y a 50% de ce chocolat-là qui t'appartient, Sylvain.
C'est ça,
pour les gens qui voudraient avoir des billets, c'est la dernière chance. C'est le last call. Je suis présentement au Telluçon sur Soumande, en face de Fleur de Lys, en face du Maxi. Le Telluçon, donc, de Vanier. Écoute, on avait combien? 1000 billets?
Ouais, à peu près au total, ouais, il doit en rester même pas 10%. On est vraiment, vraiment content. L'enthousiasme est incroyable. On va avoir foulé. Les gens sont très heureux, ils nous l'expriment aussi. Puis nous autres aussi, on a hâte de vous voir plein de gens là, qui nous ont dit en passant, ça fait un an qu'on n'a pas vu de show. Il y en a qui nous ont dit, ça va être mon premier show depuis le début de la pandémie. C'est la première fois qu'on va sortir. On a monté des gangs également, que ce soit des infirmières, que ce soit des gens de bureau, des gens de pharmacie, d'un peu partout. Ça va être demain, là, je sens qu'il va y avoir une énergie incroyable dans le Capitole. Puis il reste encore de la place pour Guitar Legends et Mario Tessier. Il faut aller voir François. Répète-nous, t'es où, là?
Là, je suis au, voyons, je suis au Telluçon sur Soumande, en face de Place Fleur de Lys, en face du Maxi. Et Sylvain, le spectacle, mais tu sais, toi, t'en parles, mais tu sais, tu fais partie des médias, t'es dans les lits corrompus. Moi, je suis encore crédible. Je peux dire que c'est un excellent spectacle. Je l'ai vu quand il a été présenté il y a quoi, un mois et demi, là. Honnêtement, le poil levé sur les bras. Quand il joue du Dire Straits, et c'est pas Money for Nothing, et je brûle pas le punch, je braillais dans le show comment c'était bon. Honnêtement, il reste très peu de billets ici au Télévision. premier arrivé, premier servi. J'ai pas envie de faire de peine à deux auditeurs, mais pour vous dépêcher, parce que sinon, il en restera plus. Moi, je suis ici jusqu'à 6 heures, il en restera plus à 6 heures moins 5.
Si vous avez passé dans le coin, donc vous avez encore le temps, il est 17h10. François, il reste jusqu'à 6 heures. Tellusion, Soumande, à Vanier, en face du Fleur de Lys ou le Maxi, là, drette en face, allez voir les drapeaux, 93, Tellusion, Chatter, on est là. Il a parlé de Dire Straits, oui, mais Bon Jovi aussi, Led Zepp, puis U2, puis nommez-en Ozzy Osbourne, Jimi Hendrix, les plus grands guitaristes, on va leur rendre hommage, mais attention, on fait pas juste les solos de guitare, là. Hein? On a une chanteuse, un chanteur, il y en a 3-4 qui chantent là-dedans, bassiste, puis batterie, on fait les tonneaux complets. Puis Mario Tessier va mettre le feu là-dedans, à l'animation, entertain, il va même chanter, il va nous faire rire, il va faire des numbers, fait que c'est, si vous êtes plus humour ou plus musique, indépendamment, tout le monde va être heureux avec Tellusion et Chatter. François est là, dépêchez-vous, Tellusion, Vanier, on donne des paires de billets en échange de chocolat et de pommes. Non, c'est pas vrai ça. C'est juste qu'à... c'est pas obligatoire. On vous les donne. Salut, François.
Salut.
Ça allait bien les sujets de Marc. On vote à l'instant.
Oui, premier sujet, le discours d'ouverture de François Legault, le ministère de la cybersécurité ainsi que l'objectif de diplomation des jeunes à 90% ou encore la circulation. Est-ce qu'on s'en va vers le pire?
Oh, on a remarqué les bouchons à Montréal aussi, ça s'en vient, puis à Québec aussi. Là, on,
tranquillement, c'est revenu pas normal, vite, à Montréal,
c'est revenu. Alors, on parle de circulation ou de...
Ben, du discours d'ouverture de François Legault, ouais, en général.
Un des deux, vous votez, parce que ça a été majeur aussi, ça. Aujourd'hui, on n'a pas parlé encore, fait que ça va peut-être nous en donner l'occasion. Circulation ou François Legault, vous votez au 25-226.
93. 93. Québec. La radio qui fait parler. Bouchard en parle. Faites du bruit. Parlons-nous. L'équipe radio la plus solide à Québec. 93. La radio qui fait parler.
Bouchard en parle, présenté par Jean Lelièvre Syndic, autorisé en insolvabilité. Des solutions à votre portée. Des conseillers à l'écoute, là, quand vous en avez besoin. Jean Lelièvre Syndic, nous sommes votre allié.
93. Jusqu'à 18h, vous écoutez Bouchard en parle.
Avec Sylvain, Karen et Jean-Simon.
Très tranquille dans la situation. La situation est très tranquille dans la circulation. Oui. Hein? Des fois, on se trompe de mots. Ça pour dire que ça va très, très bien cet après-midi. Franchement, une heure de pointe très calme. Capitale, direction ouest, léger ralentissement tout de même. Entre Robert Bourassa et Laurentienne. Laurentienne, à peine un peu d'hésitation. Quand vous descendez Laurentienne sur l'échangeur vers Capitale, direction ouest, vous allez ralentir un peu. Traverser le pont, ça se fait comme un charme en ce moment. La 20, direction ouest, à partir du président Kennedy, vous en avez à peu près jusqu'à Taniatom. Encore là, c'est pas la fin du monde. Autre chose, 25-226 ou étoile 93-3.
La circulation, une présentation d'Antirouille Métropolitain. C'est l'automne. Protégez votre véhicule contre la rouille dès maintenant. Prenez rendez-vous sur antirouille.com. Antirouille Métropolitain, grouille avant que ça rouille.
Ben, Sylvain vient de le mentionner. Le premier ministre du Québec, François Legault, a inauguré la session parlementaire de l'Assemblée nationale avec un discours où il a présenté ses priorités en cette année préélectorale. Une année de mandat, une quatrième année de mandat, selon lui, qui va se dérouler sous le signe du changement. Il a annoncé également que l'urgence sanitaire serait bientôt levée. L'échéance, la vaccination des 5-11 ans.
Les nouvelles, une présentation d'Antirouille Métropolitain. C'est l'automne, protégez votre véhicule contre la rouille dès maintenant. Prenez rendez-vous sur antirouille.com. Antirouille Métropolitain, grouille avant que ça rouille.
Ce soir, cette nuit, c'est nuageux avec un 60% de probabilité d'averse, minimum de plus 5. Pour demain, toujours sous les nuages avec un 30% de risque d'averse le matin seulement, maximum de 11. Et pour jeudi, ce serait de la pluie avec un maximum de 9. C'est ce qu'on a actuellement à Québec, 9 degrés.
La météo présentée par Silencieux Proto. Pas besoin de rendez-vous, l'estimation est gratuite et la réparation souvent effectuée en une heure. Visitez silencieuxproto.com.
Cher Laurier Mazda, voilà une semaine que j'ai pris possession de ma CX-5 à seulement 85$ par semaine. Je n'ai pas eu à attendre 6 mois comme ailleurs, bravo. Vous n'êtes pas 4.7 étoiles selon Google pour rien. J'irai quand même essayer le nouveau Mazda MX-30 full électrique, question de rester au courant. Je suis surexcité, je tape comme un déchaîné car ma CX-5 me craint l'enfer. PS, ça cartonne!
Quand on vit dans une maison sans objets indésirables, l'air sent bon.
Et notre voix semble plus forte.
Comme quand on chante sous la douche.
Et pour se sentir aussi merveilleusement bien, il suffit...
de composer le 1-800-GOT-JUNK.
On fait disparaître les objets indésirables.
Suffit de pointer.
Laissez-nous opérer notre magie.
Les objets indésirables qui auraient pris des heures à transporter...
seront partis en quelques minutes. Appelez-nous.
Et on vous vendra un samedi de liberté.
Composez le 1-800-GOT-JUNK.
Ou visitez le 1-800-GOT-JUNK.com.
Je vous parle de Armoire PMM. On a une nouvelle promotion chez Armoire PMM qui a été extrêmement populaire il y a quelques temps déjà, puis on revient avec ça. On est très heureux de vous servir encore. 179 employés. Travailleurs chez Armoire PMM, la plus grosse usine d'armoires de cuisine au Québec. On a ça ici, à Québec. 179. Oui, oui, il y a une enquête sur une personne. Un gestionnaire de la compagnie. On a vu ça à TV. On est au courant. La conclusion, je ne l'ai pas. En attendant, tout le monde est au boulot. On continue à livrer des armoires de qualité. Donc, on vous donne... Maintenant, je sais qu'en ton magazine, c'est des choses auxquelles des fois on renonce à la fin parce que c'est trop cher un peu. Avec PMM, on vous donne le comptoir en granit ou en quartz. On livre environ 18 cuisines par jour, actuellement un peu partout au Québec. Et le comptoir de granit ou quartz, c'est donné, c'est gratuit. armoirepmm.com.
Jusqu'au 20 octobre, chez Maxi, il y a plein de rabais spectaculaires. Par exemple, le paquet de 4 poitrines de poulet désossé sans peau est à 9$. À ce prix-là, ça va s'envoler.
Mais on n'en manquera pas. Détail en magasin.
Mom, viens-tu me reconduire pour mon match samedi matin?
Zéro. Combien de fois je t'ai demandé si tu pouvais laver ma nouvelle Prius Prime 2022? En passant, ça me coûte seulement 82$ par semaine avec zéro comptant pendant les jours repartis en Toyota. Hein? Au moins 10 fois.
Bon, va encore falloir que je quête un lift à mes amis.
Ben, si tes amis aident leur mère, ils ont des lifts. Ça marche de même. Bon, bonne route, là. Moi, faut que je parte dans ma nouvelle Toyota. Bonne chance pour ton match. Sainte-Foy Toyota, ça roule pour moi.
Maison Adam.
José de la Maison Adam célèbre ses 30 ans d'expertise en audio-vidéo. Pour l'occasion, il vous offre un rabais éclair et exclusif de $150 sur l'excellent récepteur cinéma maison RX V4 de Yamaha, offert à seulement $549. Faites vite, cette offre est valide aujourd'hui seulement. Passez voir les experts de Maison Adam au 710 rue Bouvier ou rendez-vous sur maisonadam.ca.
Maison Adam. Dans la technologie.
Le 7 novembre, vous pouvez marquer l'histoire par un vote qui sera historique en votant Québec 21. Voici pourquoi.
Moi, Jean-François Gosselin, je serai le maire de la relance économique post-COVID. Québec 21 est le seul parti qui promet de geler les taxes pour les deux prochaines années. Québec 21 est le seul parti qui propose une autre solution que le tramway, le métro léger Vals, voulu, adapté et orienté vers le futur.
Le 7 novembre, participez avec nous au changement à l'Hôtel de Ville. Votez Québec 21. Autorisé et payé par l'agent officiel de Québec 21, Jean-Sébastien Côté.
Salut, ici Bruno de Radio-Canada. Ce soir, il est question d'environnement et de politique municipale. D'abord parce que les chefs des partis municipaux à Québec ont eu à débattre de ces questions cet après-midi. On analyse aussi la place que prennent les enjeux environnementaux dans cette campagne. Aussi, premier d'une série sur l'Église, parole de vie du révérend en fuite Paul Mukendi. On verra de quelle façon il tente de redorer son image à partir de l'étranger.
Votre téléjournal avec Bruno Savard, en semaine 18h. Ici Radio-Canada Télé.
Hey, salut Denise, je rentrerai pas travailler à la cantine. Je viens de gagner au Lotomax.
OK, et puis demain?
Prochain tirage, 55 millions plus 4 max millions.
Chatter, téléphone mobile prépayé, arrive chez Télution. Pour l'occasion, il nous présente le spectacle Guitar Legends et Mario Tessier le 20 octobre au Capitole. Pour gagner vos billets, écoutez Bouchard en parle.